إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission cette récitation et cette lecture de Sourate As-Saff. Nous nous étions arrêtés au cours précédent, au 9e verset. Donc, nous allons lire, Inch'Allah, tout d'abord réciter les parties en arabe et expliquer ce qu'Allah Ta'ala nous permet en langue française. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله سبحانه وتعالى dit dans Sourate As-Saff, le rang, à partir du verset 10 jusqu'au dernier verset qui est le 14, dans le sens de sa parole: « Ô vous qui avez cru, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? Vous croyez en Allah et en son messager, et combattez sur le sentier d'Allah de vos biens et de vos personnes. Ceci est meilleur pour vous, si seulement vous saviez. Allah vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des rivières, ainsi que des demeures agréables dans des jardins d'établissements permanents. Telle est la réussite suprême. Il vous accordera une faveur que vous aimez, un secours venant d'Allah et une victoire proche. Fais cette bonne annonce aux croyants. Ô vous qui avez cru, demeurez partisans de la religion d'Allah, tout comme le furent les apôtres auxquels Isa, fils de Maryam, dit « Qui sont mes partisans sur la voie d'Allah ?» Les apôtres répondirent « Nous sommes les partisans de la religion d'Allah. » Un groupe des fils d'Israël crut en lui, tandis qu'un autre groupe refusa de croire. Nous avons alors soutenu les croyants contre leurs ennemis, et ils triomphèrent. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la fin de cette sourate As-Saff, qui encourage au combat sur le sentier d'Allah. Cette sourate encourage au combat dans le sentier d'Allah. Le combat dans le sentier d'Allah est une adoration parmi les adorations de l'islam qui est réglementée, qui a des piliers, des conditions de validité comme toutes les autres adorations de l'islam. Il ne convient pas à quelqu'un d'aller faire ce qu'il veut, comme il veut, de manière contradictoire aux ordres religieux, de rejoindre des factions et des groupes égarés, innovateurs, contredisant la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis de dire derrière, je suis un combattant sur le sentier d'Allah, je suis un mujahid, je fais le djihad. Comme pour les autres adorations, le djihad fi sabilillah, le combat dans le sentier d'Allah, sur la voie d'Allah, a des règles déterminées. Ce n'est pas ici l'occasion de les détailler. Je pense qu'on les a déjà détaillés dans plusieurs conférences au préalable. Mais quoi qu'il en soit, il était nécessaire de faire cette parenthèse avant de continuer dans ce sujet, car beaucoup pourraient écouter les vertus du combat dans le sentier d'Allah, les vertus du djihad, et les utiliser à tort pour aller rejoindre des groupes égarés, des groupes qui suivent la voie des khawarij, des groupes innovés qui ne combattent pas réellement sur le sentier d'Allah, dont la plupart combattent sur le sentier de Satan, le sentier de Shaitan, et aussi beaucoup d'entre eux sont des grands ignorants et ils expliquent les textes et les paroles des savants de manière erronée, en suivant leur passion, en suivant des objectifs autres que les objectifs fixés par la charia, par la législation islamique. De même, cette adoration, comme toutes les autres adorations, est réglementée par la capacité. Par exemple, la salat, qui est la meilleure adoration après la double attestation de foi. Celui qui n'est pas capable de prier debout, il prie assis. Celui qui n'est pas capable de prier assis, il prie allongé. Celui qui n'est pas capable de faire les ablutions, il fait le tayammum. Pareil le jeûne. Celui qui n'est pas capable de jeûner, si c'est une incapacité permanente, il va nourrir à la place. La zakat, qui est une adoration, celui qui n'a pas les moyens de payer la zakat, il n'en a pas à payer. Le hajj, qui est un autre pilier de l'islam, celui qui n'est pas capable, qui n'a pas la capacité physique et financière d'aller faire le pèlerinage ne lui est pas obligatoire. De même, le combat dans le sentier d'Allah. Le combat dans le sentier d'Allah est quelque chose qui est régi par les dirigeants des musulmans et non pas par le commun des musulmans, qui est lié aux règles de politique internes et externes. Et si pour X raisons, il y a une incapacité à combattre, alors dans ce cas-là, on n'annule pas cette adoration. Cette adoration reste. Le combat restera jusqu'au jour du jugement dernier. Mais il y a des moments où on peut combattre, il y a d'autres moments où on ne peut pas. Il y a des moments de paix, des moments de guerre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a signé un traité de paix avec les Qurayshites, qui torturait et qui châtiait les musulmans pourtant. Donc, cette adoration, comme les autres adorations, sont soumises à des règles et sont soumises à la capacité. Barakallahu fikum. Quoi qu'il en soit, il convient à tout croyant, tout homme croyant, d'avoir l'intention ferme dans son cœur que si la religion d'Allah venait avoir besoin de lui pour combattre dans le sentier d'Allah, sous l'étendard d'un gouverneur légitime et dans une cause légitime. Parfois le gouverneur peut être légitime, mais il vous appelle à une cause illégitime. Il vous demande de combattre pour opprimer des gens, par exemple. Donc si ce combat se passe sous l'étendard d'un gouverneur légitime, pour une cause légitime dans les règles de l'islam, alors l'intention ferme de tout musulman, c'est qu'il participerait à ce combat, qu'il serait en première ligne pour défendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ces versets, Allah tabaraka wa ta'ala recommande et oriente les croyants. Et cette recommandation et cette orientation provenant du plus miséricordieux des miséricordieux en direction de ses serviteurs croyants, c'est cette recommandation contient le plus grand des commerces et la plus sublime des aspirations qui permettent d'obtenir le salut contre le châtiment douloureux et la réussite absolue dans la félicité éternelle. Allah subhanahu wa ta'ala montre que ce commerce est désiré par toute personne clairvoyante. Ce commerce est désiré par toute personne clairvoyante. Et il constitue le but de toute personne intelligente. C'est comme s'il disait, quel est ce commerce dont telle est la valeur? Puis il a répondu, c'est de croire en Allah et en son messager. Ce commerce-là, c'est en premier lieu la foi totale et la conviction inébranlable en ce qu'Allah a ordonné, en y ajoutant foi. Cette foi implique l'accomplissement d'actes physiques, dont un des plus importants est le djihad fi sabilillah, le combat dans le sentier d'Allah. C'est pour cela qu'il a dit de lutter pour la cause d'Allah avec vos biens et vos personnes, c'est-à-dire faire don de vos personnes et de vos âmes pour contrer les ennemis de l'islam, faire triompher la religion d'Allah et donner la prééminence à sa parole. Vous dépenserez aussi de vos biens au service de cette noble cause. Il est vrai que même si cela est pénible pour les âmes et désagréable pour elles, il n'en demeure pas moins que cela est dans votre propre intérêt, si seulement vous pouviez le savoir. Parce que cela comporte tout le bien terrestre pour vous, notamment le fait de triompher sur vos ennemis, la puissance, qui est le contraire de l'avilissement, l'honneur, les ressources considérables et la sérénité du cœur et sa quiétude. Quant à l'au-delà, ce sera l'obtention de la récompense divine et le salut contre son châtiment. C'est pour cela qu'il a mentionné la rétribution dans l'au-delà en disant « Allah vous pardonnera vos péchés ». Cela englobe les péchés mineurs et les péchés capitaux, car la foi en Allah et le combat pour sa cause font expier les péchés même s'ils sont des péchés capitaux. Alors les femmes pourraient se demander, comme les femmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont demandées, « Ô messager d'Allah, on voit les grandes récompenses du combat dans le sentier d'Allah, et nous les femmes nous en sommes privées. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, « Un pèlerinage exempt de tout péché est votre combat. » Donc le djihad pour la femme, c'est le pèlerinage, le hajj, exempt de tout péché. Puis Allah tabaraka wa ta'ala, dans les promesses qu'il a données à ceux qui croient en Allah et qui combattent pour sa cause, donc il leur pardonnera leurs péchés et vous accueillera dans des jardins baignés de ruisseaux, c'est-à-dire des ruisseaux coulant sous ses demeures ou sous ses palais, ses chambres, et ces arbres, des ruisseaux d'eau non croupissante, de lait au goût inchangeable, de vin agréable qui n'enivre pas, et du miel pur. En outre, ils recevront toutes sortes de fruits, et dans des demeures magnifiques au paradis d'Éden, c'est-à-dire dans des jardins d'établissements permanents. Ces demeures réunissent toutes les formes de beauté, de jouissance et de coquetterie, notamment l'élévation, l'excellence et l'embellissement. Il en est ainsi au point où les habitants des demeures élevées seront vus par les élus du paradis comme on voit une étoile à l'horizon oriental ou occidental. Pour ce qui est des constructions du paradis, Elles seront faites pour certaines avec des briques en or et pour d'autres en argent. Ces tentes seront faites de perles et de corail. Certaines demeures seront faites en émeraude et en pierres précieuses de toutes les plus belles couleurs. Leur beauté sera telle qu'on verra leur côté apparent de leur côté caché et vice-versa. On y trouvera comme excellence et beauté ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu et nul cœur humain n'a jamais pu imaginer. Ils ne pourront en prendre conscience qu'une fois qu'ils auront vu et auront joui de ces faveurs. Auquel cas, si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas créé les élus du paradis dans une forme parfaite, qui n'accepte pas la destruction et le néant, ils mourraient de joie et de plaisir. Gloire à Allah. Gloire à celui qu'aucune de ses créatures ne peut louer comme il le mérite. Mais lui seul peut faire ses éloges au-dessus de ce que peuvent le louer ses serviteurs. Gloire à Allah le majestueux, qui a créé la demeure de la félicité en y mettant comme beauté et majesté ce qui est de nature à éblouir les esprits et à ébahir les âmes. Qu'il soit glorifié, subhanahu wa ta'ala, celui qui possède la sagesse parfaite, dont une des manifestations est que s'il avait montré le paradis à ses créatures au moment de sa création, aucune d'entre elles ne se serait privée d'y entrer, et la vie aurait été insupportable pour elles dans ce monde, empreint de malheur et de contrariété. Si ce paradis a été appelé l'Éden, c'est parce que ses habitants y resteront éternellement, sans en sortir, et parce qu'ils ne souhaiteront pas le quitter pour un autre endroit. Telle est la grandeur, telle est la grande récompense et l'incommensurable rétribution qui n'ont aucun équivalent, cela dans l'au-delà. Quant à la récompense terrestre de ce commerce, Allah l'a mentionné dans sa parole que vous n'avez pas cessé d'appeler de tous vos vœux, c'est-à-dire que vous obtiendrez une faveur que vous aimez, à savoir l'assistance d'Allah, l'aide d'Allah, le secours d'Allah contre vos ennemis, avec laquelle vous obtiendrez l'honneur, la puissance et la dignité. Les autres croyants qui ne font pas le djihad, qui ne font pas le combat, lorsque d'autres croyants le font à leur place, ne seront pas lésés par Allah subhanahu wa ta'ala de ses faveurs et de ses bienfaits. Bien plus, celui-ci dit, annonce cette bonne nouvelle aux croyants, en général. C'est-à-dire, cette récompense présente et future, chacun selon sa foi, même s'ils n'atteindront pas le degré des combattants pour la cause d'Allah. Car comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit, il y a dans le paradis 100 degrés spécialement préparés pour les combattants au service d'Allah. Entre un degré et un autre, il y a la même distance qu'entre le ciel et la terre. Allah subhanahu wa ta'ala a demandé après cela aux croyants d'être les défenseurs de la religion d'Allah, de demeurer des gens qui vont secourir la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette défense et ce secours se fait avec les paroles et les actes. Et ce, en prenant soin de la religion d'Allah, en la mettant en application, en la transmettant aux autres, en la transmettant aux autres, en luttant contre ses ennemis, avec les personnes et les biens, et en infirmant les mensonges de ceux qui rejettent la vérité, tout en leur apportant les preuves et les arguments qui montrent leurs mensonges et leurs égarements. Apprendre et étudier le livre d'Allah. Apprendre et étudier la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est aussi une manière d'être un secoureur et un défenseur de la religion d'Allah. De même que le fait d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala encourage les croyants. Il encourage les croyants à prendre comme exemple ceux qui les ont précédés parmi les vertueux en disant, comme l'avait dit Isa, fils de Mariam, Jésus, fils de Marie, aux apôtres, Qui me soutiendra dans mon combat pour défendre la cause d'Allah? C'est ainsi qu'il leur dit à titre de proposition, qui m'aidera et m'assistera dans ma tâche de défense de la religion d'Allah en restant tout le temps à mes côtés. Les apôtres lui répondirent sans hésiter, nous sommes les défenseurs de la religion d'Allah. Isa, Jésus, alayhi salam, poursuivit donc sa mission et défendit la religion d'Allah, soutenu par les apôtres qui le suivirent. Et c'est ainsi qu'une partie des fils d'Israël se convertirent, acceptèrent le message de Isa alayhi salatu wassalam, grâce aux prêches de Isa alayhi salam et des apôtres, tandis que l'autre partie refusa de le faire en rejetant leurs prêches. Les croyants combattirent alors les mécréants, mais soutenus par Allah, par nous, contre leurs adversaires, c'est-à-dire que nous les avons raffermis et renforcés, les croyants ne tardèrent pas à remporter la victoire et à triompher sur eux. En effet, un groupe crut en Isa alayhi salatu wassalam comme il se doit. Alors que les juifs rejetèrent sa prophétie et que d'autres factions chrétiennes tombèrent dans l'exagération et adoptèrent des croyances erronées au sujet de Isa alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala fit triompher le groupe qui a cru en Isa comme il se devait, que c'était un prophète envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, et il les a fait triompher sur les autres factions chrétiennes en envoyant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui fit dominer la croyance authentique et qui rejeta les fausses croyances erronée et inventée sur Isa alayhi salatu wassalam, sur Jésus alayhi salatu wassalam. Vous aussi, ô communauté de Mohammed, soyez les défenseurs et les secoureurs de la religion d'Allah et prêchez les gens à cette religion. Allah vous soutiendra comme il a soutenu ceux qui vous ont précédé et il vous fera triompher sur vos ennemis en vous donnant l'honneur, la dignité et la puissance. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallillahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.